Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Le golf prend une nouvelle dimension sur RMC. Toute l'année, la Dream Team sera présente tous les lundis pour commenter l'actualité de nos plus grands champions, nos plus grands tournois. Notre volonté, c'est de vous faire découvrir ce sport formidable, de vous donner envie de jouer, de regarder, de nous écouter, bien sûr, grâce à nos partenaires, U-Golf Blue Green et Callaway. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est la saison 3, épisode 9.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 9 du Practice RMC saison 2024. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous sommes le 1er avril, sachez qu'en mars, nous avons établi un nouveau record. Merci beaucoup de nous suivre aussi nombreux. N'hésitez pas à commenter, à liker sur notre chaîne YouTube et évidemment à faire partager à vos amis. Au programme, 3 mois de compétition en 2024, l'heure de faire un premier bilan avec la Dream Team. Êtes-vous emballé par ce début de saison? Évidemment, ils ne sont pas d'accord. Le 19e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon.
Salut JC, salut les gars, bonjour tout le monde.
Que faisons-nous au 19e trou?
On va parler un petit peu en détail de cette TGL, tu sais, la Tech Infused Golf League, promue par Tiger et Rory. On va voir si ça intéresse les copains.
Mais oui, elle devait voir le jour il n'y a pas longtemps. Finalement, ça a été repoussé. Mmh. Et ce sera en 2025. On en parlera avec toi. Évidemment, Simon, très heureux des nouveaux chiffres du podcast. On cartonne?
Ah ben, on remercie tous les gens qui nous écoutent. Il en faudrait encore plus.
Encore plus. On va s'attacher à
évidemment,
ça.
Évidemment, on est ravis, bien sûr.
Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho.
Salut JC, bonjour à tous.
Avec le micro, Ramucho, c'est de la radio, Ramucho.
Bah, il avait l'air ouvert, le micro, pourtant. Hein.
Vas-y, Ramucho.
Salut JC, bonjour à tous.
Ça va, mon Ramucho?
Oui, même micro ouvert.
Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. À chaque épisode, vous le savez, notre coach vous vient en aide et vous donne un cours particulier. Aujourd'hui, Ramucho, c'est Loïc qui a besoin de toi. Il veut attaquer les greens même quand il y a du vent. Ok, vent avec, vent contre. Faut des tips là.
C'est un bon programme ça. C'est un super coup.
Fabien Deneuillant, salut Fabien.
Salut JC, salut la team, salut tout le monde.
Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green. Tout va bien, mon cher Fabien?
Écoute, pleine forme, yes, au top et...
T'es ouais, prêt à t'attaquer au loustique quand même?
Oh, j'ai une pêche.
Tu vas les piler au critérium comme à chaque fois. Notre consultant RMC, Martin Coulon, salut Martin.
Salut tout le monde, comment ça va?
Bah, tout va bien, Martin aussi, t'as envie d'en découdre aujourd'hui?
Toujours, mais gentiment, tu sais, nous on est des gentlemen quand même.
Est-ce que tu vas nous faire des imitations de Fabien aujourd'hui?
Salut JC, salut la team.
On peut en avoir deux si tu veux pour le prix d'un. C'était mon petit cadeau du 1er avril pour moi.
C'est pour ça, mais c'est pour ça que je vous aime les gars.
J'ai failli dire bonjour Fabien. Tu vois, même moi j'ai vraiment cru à cette imitation. Bravo. On va se régaler évidemment aujourd'hui, un magnifique cadeau à vous faire gagner. Je vous en parle un petit peu plus tard grâce aux copains de Callaway. Mais tout de suite, le bilan.
Allez, le rendez-vous de Mathieu Pavon avec l'histoire.
Oui.
Mathieu Pavon devient le premier Français vainqueur d'un tournoi sur le PGA Tour.
Clark pour poursuivre l'aventure. Sinon, c'est Scottie Scheffler qui va se succéder à lui-même. Oh là 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 là, c'est incroyable! Et c'est Scottie Scheffler qui va conserver son trophée. Incroyable finish, incroyable dénouement ici.
It still could happen if Scheffler misses. Steven Yeager has broken through. A winner on the PGA Tour.
Le Practice RMC.
Et la victoire de Yeager, c'était à Houston, évidemment, ce week-end. 3 mois de compétition, quelques coups d'éclat, vous l'avez entendu, comme Dunlap et Pavon, quelques performances exceptionnelles, comme Scheffler aux Players. Et sinon, les principales stars tardent à véritablement prendre les choses en main. Alors, évidemment, nous allons entrer dans une période faste, espérons-le, avec le Masters d'Augusta dans 2 semaines, le RBC Heritage fin avril, le PGA Championship en mai, l'US Open en juin, The Open en juillet, et évidemment, le tournoi olympique en août. Mais je vous propose de faire donc un bilan depuis ce début de saison, après ces 3 mois de compétition. Êtes-vous tout simplement emballé par ces 3 premiers mois? Oui ou non, Simon Dutin?
Bof.
Fabien Deneuillant?
Grave emballé.
Martin Coulon?
Mouais.
Ok, j'ai du bof, j'ai du mouais. Va falloir tenter de vous convaincre. Ramucho Artola?
Voilà, tiens, oui. Franc et massif.
Un oui, franc et massif. On va commencer avec un bof, si ça vous dérange pas. Simon Dutin.
Bah bof, parce que lorsque tu regardes la liste des mecs qui ont gagné sur le PGA, Scotty mis à part, hein, on va pas faire tous les épisodes à la gloire de Scheffler, on va peut-être en reparler. Bon, Ekroth, Malnati, Knapp, Taylor, Dunlap, Murray, Kirk, Jaeger à Houston. Voilà, ça fait tout simplement pas rêver. On va en parler, se réjouir que certains mecs mettent le nez à la fenêtre et peut-être l'avènement de futurs champions, de futures figures du PGA. J'ai suffisamment rappelé ici que dans le contexte qu'on connaît avec le schisme, avec le livre, le PGA a besoin plus que jamais de ses stars. Donc voilà, il n'y a pas eu de miracle Tiger sur les quelques tours qu'il a disputé. Où sont Victor Hovland, où sont Rory McIlroy, où sont Justin Thomas, où sont Jordan Spieth? Je ne vous parle même pas de Tommy Fleetwood, hein, il est demandé à l'accueil du PGA, on ne sait pas ce qu'il fout. C'est un peu décevant parce qu'au-delà, et je mets évidemment la victoire de Mathieu Pavon à part, parce qu'au-delà du fait qu'elle est française et qu'elle nous a évidemment nous emballés, je pense que le final du Farmers, c'est ce qu'on a vu de plus excitant, je pense, dans les dimanches.
Alors, Farmers, avec le Players.
Ouais, mais la façon avec laquelle...
Et puis avec le Houston Open, et puis avec...
Non, Fabien, je termine juste en
alors
disant...
Alors ne mets pas en exergue la victoire de Mathieu, tu la mets... Alors tu non, la mets Mathieu, ou parce que tu veux pas te froisser,
non,
parce ou que... parce qu'il
non,
est
non,
français,
non, c'est pas... Non.
Bah, je assume complètement...
Ah, non. Je pense que même les Américains, je pense que tu demandes aux diffuseurs américains, la façon dont sur les trois derniers trous, Pavon assure sa victoire, le putt rentré au 16, son coup depuis le rough au 18, le putt pour rentrer, le mano à mano avec Osgaard sur la fin, je pense
là,
que c'est...
Simon.
Ah, mais c'est quasiment ce qu'on... J'ai quasiment...
Mais c'est en contradiction avec ce qu'on a dit depuis le début, que la TV américaine le snobait et qui montrait Knapp et qui montrait Dunlap et qui montrait Mathieu Pavon.
Mais ça,
si Mathieu Pavon,
soit qu'il soit pas encore...
Non, mais
il avait été
différent dans sa victoire, il passerait à la télé.
Qu'il ne soit pas encore... Non, on en avait parlé après. Je pense que ça fait partie des choses qui vont convaincre les Américains de nous le montrer un peu plus. Je termine juste en disant que, à part Matsuyama qui nous a fait un truc un peu exceptionnel, Wyndham Clark qui, je pense, peut devenir une des nouvelles figures, nouvelle star de ce tour. Et évidemment, le roi Scotty qui est passé pas loin du bol de ponche à Houston pour son troisième départ consécutif. Je pense que on s'emmerde un peu. Voilà, c'est tout.
Ça fait beaucoup de points positifs pour un tour qui a démarré il y a à peine 3 mois, quand même.
Il y a quand même eu 14 tournois.
Bah oui, c'est pour ça qu'on fait le bilan, les copains. Les mecs, donc, tu voulais répondre à Simon, Fabien.
Bah évidemment, je comprends pas que vous puissiez faire aujourd'hui les frustrés. De toute façon, il y a un constat, c'est que les joueurs sont éclatés sur différents circuits. Ok, on le sait. Donc à un moment donné, on ne peut pas bouder notre plaisir de voir de nouveaux joueurs, donc de nouveaux talents. Parce que tu remarqueras que c'est plutôt de jeunes joueurs qui viennent du Korn Ferry, qui viennent du DP World Tour, puisqu'il y avait les 10 places à gagner. Donc à un moment donné, les mecs ne gagnent pas au-dessus du par. Enfin, je veux dire, ils font des perfs incroyables.
C'est vrai, mais est-ce que c'est bien pour le golf?
Mais bien sûr que c'est bien pour le golf. C'est fantastique pour le golf. Mais... Alors, et moi, personnellement, parfois, c'est vrai que je m'emmerde un peu, je dois l'avouer. Mais on a souvent des finishes qui sont quand même et qui nous permettent de vibrer. On le voit encore hier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas bouder notre plaisir. C'est pas possible.
Quand tu regardes le leaderboard, juste avant de vous donner la parole, le leaderboard à Houston, c'est vrai qu'une fois qu'il y a gagné,
répondez pas.
Tu regardes le leaderboard, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, c'était serré. » Tu vois un Finau à moins 11 qu'on ne t'a pas montré de la journée. Tu te rends compte qu'il y a une densité en haut du classement,
mais qui n'a pas
été reproduite.
C'est canonissime.
On a rien. Il n'y a pas eu de mano à mano, il n'y a pas eu de renversement de situation, il n'y a pas eu de coup d'anthologie. Les trois mecs qui peuvent encore gagner à Houston, bah, ils ratent tous un putt, ça se joue sur des putts ratés, ça s'est pas joué sur des coups d'anthologie.
Mais c'est quoi un coup d'anthologie?
Le coup de Pavon, justement, sur le 18 du Farmers, j'en reviens là.
Ah ouais, parce qu'il est français, parce qu'il n'y a pas eu de coup d'anthologie.
Non, justement, ne me fais pas dire ce que je dis pas, tu sais très bien que c'est pas du tout parce qu'il est français. Je me mets à la place des diffuseurs, des producteurs américains, j'ai pas l'impression qu'on s'étouffe avec le spectacle sur le suspense. Quoi.
Ah bah oui, mais ça fait partie de notre sujet pour savoir si on est emballé aussi en tant qu'amoureux du golf et de téléspectateurs. Ramoud Chortola, toi t'es emballé.
Moi, je suis proprement emballé parce que pendant des années, le haut niveau concernait 3 ou 4 joueurs. Un petit peu peu, sans faire le parallèle, comme au tennis. Donc, c'est des gars fantastiques. Mais au golf, là, on a la chance d'avoir une vie exceptionnelle, comme disait Fabien. Il y a des ressources derrière et des nouvelles têtes. Ça donne beaucoup de fraîcheur à notre sport. Et à chaque semaine, ben, tu as un suspense sans savoir qui va gagner, même s'il y a des codes pour Scotty, etc. On ne sait jamais qui va soulever le trophée le dimanche. Donc, ça, c'est fantastique pour le sport et la dramaturgie. Non, c'est top.
Martin Coulon.
Ouais, j'avoue, je suis un peu embêté parce que je suis toujours un peu les fesses entre deux chaises.
Ah, le champion,
non, pas toi, Martin.
Oui, non. Je sais. Ça s'appelle de la nuance. Il faut que vous appreniez ça.
C'est une discipline olympique ou pas ?
En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que je suis d'accord complètement avec ce qui est dit du côté Fabien et du côté Ramouch. Mais moi, il y a un chiffre qui m'ennuie par rapport à ça, c'est que les diffuseurs américains, globalement, depuis le début de l'année, ils ont perdu 20% d'audience par rapport à l'an dernier. 20% d'audience en moins. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je me demande en fait si au-delà de... Il y a de l'intérêt, parce qu'il y a des jeunes joueurs, parce qu'il y a du renouveau, parce qu'il y a peut-être moins de mainmise de 10, 15, 20 joueurs qui sont un peu les cadors là, qui te savatent les tournois comme c'était le cas depuis les 5, 6 dernières années. Je me demande si on n'est pas en train de voir l'effet pervers de la guerre civile du Golfe qui a lieu depuis quelques années maintenant. Quoi. C'est-à-dire que, oui, comme on le disait très justement, il y en a qui sont sur un circuit, il y en a qui sont sur un autre. Et l'effet, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas les meilleurs joueurs réunis quasiment chaque semaine sur les mêmes tournois, sur les mêmes parcours. Et donc, personnellement, j'avoue déjà aller chercher du golf sur une autre chaîne, c'est compliqué. D'aller chercher du golf sur YouTube, parfois, tu n'as pas envie. Ça devient compliqué de regarder le golf. Et il y a aussi une dramaturgie qui est parfois là, globalement. Enfin, je veux dire, même encore cette semaine à Houston, enfin la semaine dernière à Houston, le week-end dernier, c'était pas foufou, mais il y a quand même un moment où tu te dis « Oh, c'est chouette, ça joue à un pote du numéro mondial », tu vois, il y a quand même une petite dramaturgie derrière, mais c'est pas hyper emballant. De toute façon, j'ai presque envie de dire, les premiers mois d'une saison, ils sont pas hyper emballants. Moi, ça commence vraiment à 10 jours du Master, c'est là où l'année golf commence, à mon sens. Mais là, les chiffres sont là pour le prouver.
Mais je trouvais quand même que l'année dernière, il y a deux ans, il y avait quand même une mainmise, il y avait une patte, il y avait un storytelling qui s'était installé juste avant le Masters. Ouais. Alors que là, le storytelling, pardon, mais je trouve que
le storytelling, il est
où ? Mais je trouve que c'est totalement l'inverse. On l'a parce qu'on attend, enfin, si je suis vos propos, on attend les majeurs. Pourquoi ? Parce qu'on va voir les mecs du Live qui vont enfin se confronter aux mecs du PGA Tour.
On va avoir un Français, on va avoir Mathieu.
En plus, on a un Français. Et on va voir clairement où en est le niveau de tout le monde. Et moi, je vous le dis, on risque d'être surpris par le niveau des mecs du Live.
Mais Fabien, pour moi, il est réglé, le débat, c'est même plus en débat. C'est pour ça que je rejoins JC et que c'était plus intéressant l'an dernier. La question de savoir si les mecs du Live, ça reste des très grands joueurs de golf
déjà.
Qui sont capables de gagner. On la connaît, c'est oui, ils peuvent gagner les mecs.
Ils étaient partis, seul qui n'était pas parti, c'est John Rahm.
Oui, mais c'est pas tout.
Ce que je veux dire, c'est que l'an dernier, on a vu qu'un Koepka, il peut encore gagner des majeurs, il a failli planter au Masters, il a gagné l'USPGA, on le sait. Donc, si tu veux, ça fait même plus la forme de suspense qui rend l'attente. On a juste envie de voir ces mecs-là se retrouver. On n'a même pas peur qu'ils s'engueulent, on sait que c'est plus le cas. On sait que pour certains, ils peuvent plus se blairer, mais bon, qu'ils arrivent quand même à cohabiter le temps d'un tournoi. Oui, ça rend. Moi, je trouve qu'on s'est tellement emmerdé depuis le début de saison que, oui, tu te dis, on va enfin voir. On avait oublié qu'autant de joueurs aussi forts peuvent être réunis pour la gagne. Bon.
Martin.
Oui, parce qu'au fond, tout ce qu'on dit, c'est qu'on a envie de parler de sport. Moi, j'en ai marre de parler de guéguerre intestine, j'en ai marre de parler de millions de dollars dans tous les sens, de contrats, de est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, est-ce que l'Arabie Saoudite, pas l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai envie de voir sport, j'ai envie de voir du golf. Et je crois, je pense qu'on est tous autour de cette table des fans de golf, à la base des fans de ce jeu. On a envie de voir les meilleurs s'affronter le plus souvent possible.
Mais...
Donc, il est là le souci. Et donc, je pense que le petit storytelling, le côté narratif qu'il y a depuis 6, 8 mois, 1 an, qui est de dire, on parle de golf, oui, mais on parle plus de golf par rapport à un business et par rapport à de l'argent et d'où ça vient et pourquoi, est-ce qu'il faut aller là, est-ce qu'il ne faut pas y aller. À un moment, je pense que les fans, globalement, ils en ont ras-le-bol pour ne pas dire autre chose. Quoi.
En fait, j'ai envie de vous répondre, Ramoucho et Fabien, sur le storytelling. Parce que c'est vrai que quand on suit cette compétition, alors on aime le jeu, mais on aime les histoires. Par exemple, Dunlap, super histoire. C'est-à-dire qu'il a planté un tournoi en début de saison en tant qu'amateur, il est passé pro. On voit que, hormis la semaine d'après où il s'est totalement déchiré, une fois qu'il était passé pro, il réussit à performer. C'était encore le cas ce week-end à Houston. Donc ça, ce sont des belles histoires. Mais si t'as que ça, En fait, si t'as que des nouveaux joueurs qui arrivent et qui gagnent pour la première fois, mais je mets Mathieu Pavon malheureusement dans le sac, parce que nous, en tant que Français, on trouve ça sublime, et on a raison. Mais pour un Australien, il regarde le golf, il voit Mathieu Pavon, il s'en moque un peu, quoi.
Ouais, alors... Oui, sur ton constat, si tu veux. Maintenant, c'est faire injure quand même à tous ces mecs qui ont gagné, et ils ont pas gagné avec des scores, et plutôt même à faire pâlir le reste du champ.
Mais c'est
ensuite, là, c'est que de la supposition. Si t'avais eu un champ avec les rames, avec les deux chambeaux, personne nous dit qu'au meilleur de ce qu'ils ont fait, ils n'auraient de toute façon pas gagné. Moi, la seule chose où je vous rejoins, mais pas tout à fait, parce que quand on regarde, par exemple, le West, cette année, ça a été un West le plus fou, le plus dingue, le plus excessif qu'on ait jamais connu et vu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fans sont quand même toujours là. Le seul point où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, ce qui manque, c'est que les meilleurs, et on en a déjà parlé, que les meilleurs joueurs du monde puissent s'affronter plus souvent.
Mais je voudrais pas qu'on fasse ce podcast en se disant « Ah, est-ce que le Leaf c'est bien ? Est-ce que le PGA Tour c'est bien ?» C'est pas ça l'objet du débat. Là, on parle du PGA Tour parce que c'est ce que l'on regarde, quotidiennement. Et sur le PGA Tour, il y a encore des stars. On va pas me faire croire qu'ils sont tous partis sur le Leaf. Et c'est ce que nous disait Simon il y a quelques instants. Et pourtant, elles ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que, OK, qu'il y ait des surprises...
Parce qu'il y a plus fort.
Oui, mais Fabien, quasiment jamais en contention, encore une fois, à part Scotty.
Mais parce qu'ils n'ont pas le niveau de jeu. Tu parlais de Spieth et Thomas Seca, à un moment donné, il faut mettre la balle, il faut mettre le coup de fer près des drapeaux, il faut rentrer les potes. Et pardon, ces mecs-là, aujourd'hui, n'ont plus le niveau de jeu parce que... effectivement, de jeunes joueurs qui en veulent peut-être plus, qui ont les dents qui rayent le parquet, mais qui travaillent comme des fous qui gagnent.
Mais t'as besoin, comme dans tous les sports, t'as besoin des stars aussi. T'as les jeunes loups ces mecs-là, malgré tout, je suis désolé pour la résonance auprès du grand public, je pense que les mecs qui mettent le nez à la fenêtre cette saison... Je pense que pour l'intérêt global du spectacle, ce serait bien que lorsqu'ils gagnent, ils arrivent à battre les top dogs, les vrais stars de ce jeu qui, je suis bien d'accord avec
moi, j'ai une petite question.
Dans Balance ton golfeur, on n'arrête pas de les citer. Il n'y a plus de place dans la poubelle. Okay, on ne sait plus où les mettre.
Je te suis. Cite-moi, depuis que Tiger ne joue quasiment plus, quel joueur a pris le costume charismatique pour porter... le PGA Tour ou le golf mondial sur les épaules.
Il y a eu Rory, il y avait Yon Ram, oui, même un Hovland avec sa tronche de gamin là, qui sourit tout le temps, même quand il rate des coups.
Pour moi, absolument personne.
Qu'il agace les gens ou pas, parce que ça peut se comprendre. Mais... Justin Thomas, là, quand il harangue la foule, quand il va chercher le public après un bon coup, c'est des mecs qui te font dresser un peu les poils. Il se passe quelque chose avec ces mecs-là. Là, les mecs, ils arrivent, ils sont évidemment concentrés sur leur niveau de jeu. Ça manque encore ça manque de charisme, ça manque de personnalité au-delà d'un niveau de jeu, si je suis d'accord avec toi, exceptionnel pour certains.
Si je puis me permettre, une chose qui vous échappe, c'est que le calendrier a vachement changé en deux ans. C'est-à-dire que tous les grands chelems, tous les majeurs sont regroupés au printemps, la plupart. Donc, il ne faut pas oublier que les cadors, comme tu le dis Simon, ont évidemment envie de briller là-dessus. Donc, je pense que si on ne les a pas vus, ils sont absents aussi au niveau du jeu, mais ils se préparent pour un bon mois d'avril, de mai, des juin, qui vont réunir trois majeurs.
Okay, donc ça
va être au top. C'est stratégique aussi, je pense.
Donc le gros niveau de jeu arrive, c'est ce que tu veux nous dire.
Dès cette semaine.
C'est la FedEx qui l'impose.
Oui, mais peu importe, le calendrier a changé.
Qui a imposé le changement de catégorie. Mais en revanche...
Et les Jeux Olympiques, quand même.
Oui, mais cette année, mais ça existait l'année dernière. Ça existait avant les Jeux Olympiques. Mais non, le nouveau format de la FedEx, il n'existe pas depuis 2024. Il est là depuis 3-4 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois un Jon Rahm. On parle de niveau de jeu et de charisme. Mais enfin, pardon, il a gagné un livre depuis le début de la saison, Jon Rahm ? Allô ?
Mais il n'est pas allé pour gagner, si ?
Mais bien sûr, mais vous plaisantez. Il y a un moment donné...
Alors là, non.
Il est venu pour gagner les majeurs.
Non, vous me... Ces mecs-là, évidemment, ils prennent le pognon, évidemment. Mais c'est un compétiteur, un mec comme Jon Rahm, il a envie de gagner. Et quand il ne gagne pas, il fait la gueule.
Il a envie de gagner les majeurs comme Koepka. Koepka qui t'explique.
Mais t'es obligé de gagner, mais pour te donner confiance.
Il y a 4 tournois qui comptent dans la saison, c'est les 4 majeurs.
Non, mais vous êtes dans le sport depuis longtemps.
Comme tu parles de Rahm, qui a une grinta extraordinaire, mais forcément avec le format du livre, eh ben, toute grinta qu'il a, ça s'émousse au fur et à mesure. Inévitablement, parce qu'on va parvenir là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Et tout Rahm qu'il est, effectivement, bah, il sombre doucement, doucement, s'il continue à rester sur le livre.
Gagner, quel que soit le format, gagner, quel que soit le format, il faut gagner. Donc ça, c'est à mon sens une excuse qui ne tient pas la route. Et Ram, aujourd'hui, sur ce qu'il a montré, bah, il ne surperforme pas. Et effectivement, on l'attend au pied du mur au Masters.
J'espère bien.
Martin, tu voulais rajouter ?
Oui, mais je suis toujours très embêté par le message global que le golf professionnel et que le golf de très haut niveau fait passer au plus large public depuis un an ou deux. Voilà, c'est ce message de si tu regardes vraiment très, très 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 vaguement, tu vois des mecs qui sont très blindés, qui en veulent toujours plus et qui se posent juste la question de comment ils vont en prendre plus, toi. Et je comprends et je suis complètement d'accord que la volatilité du niveau de jeu en golf, elle est très importante et que c'est très très compliqué de gagner. Et c'est encore plus intéressant de voir tout un tas de profils différents y arriver, malgré peut-être des champs un petit peu moins up to date en termes de niveau global de jeu. Mais moi, ça m'embête vraiment, quoi, de voir le golf se cannibaliser comme ça avec cette guéguerre civile qui amène finalement à pas grand-chose, qui va mettre des mois, si ce n'est des années, à se régler. Quand on voit que on va aux Bahamas en jet privé pour négocier avec Al Roumaïen et les joueurs du PGA Tour pour se mettre un peu d'accord et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
On oublie le sport, les joueurs eux-mêmes oublient un peu le sport, c'est ce que tu veux nous dire?
Oui, clairement, j'ai l'impression qu'on parle que de ça, ou quasiment, et que ça fait les gros titres de tout le temps partout.
Cite les joueurs qui sont allés, cite le joueur qui est allé.
Tiger Woods, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Malnati, tous les joueurs du board, quoi.
Donc les joueurs du board, parce que les mecs, en fait, ils veulent prévoir leur futur. Maintenant, putain, c'est quand même faire injure.
Purée.
C'est quand même faire injure depuis le début de la saison aux performances réalisées.
Alors, ok, non, mais si tu dis ça, moi j'ai une... Attendez, parce que sinon on tourne en rond, moi j'ai une vraie question. Alors, parce que si tu nous avances cet argument, moi je veux bien l'entendre. Mais est-ce que selon vous, c'est vous les experts, vous voyez, est-ce que le niveau de jeu a un peu baissé?
Mais bien sûr que non.
Mais
moi j'irais même plus loin. Le champ est plus dense.
Mais oui.
Les mecs jouent mieux.
Bien sûr.
Les mecs jouent mieux. On se rend compte aussi que les joueurs qui montent du Korn Ferry ou du DP sur les 10 cartes, et ben les mecs, ils sont souvent là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que certains. C'est un peu comme les boxeurs, si je devais prendre. Tu as souvent le souci, les boxeurs qui sont bourgeois après quelques victoires, qui s'entraînent moins, qui vont moins à la salle.
C'est vrai.
Qu'en chient moins, moins de sueur, donc moins de victoires. Et ben les Spieth, les Thomas, c'est quand on dit les mecs se réveillent en disant « Ouh là 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 là, attention, avant on était un peu moins bien, on arrivait quand même à aller chercher une victoire, là on ne peut plus être moins bien ».
Mais moi je veux bien vous me la raconter, dans tous les sens, comme vous voulez, vous la racontez visiblement, vous avez l'air de vous auto-convaincre, vous pouvez me parler du niveau de jeu, mais si on veut que le golf, si on veut que le golf sorte un petit peu du cadre des ultra-initiés, vous pouvez raconter l'histoire dans tous les sens, on a besoin, au-delà du niveau de jeu, il y aura toujours des mecs qui vont battre le parcours, il y aura toujours des mecs sur le PGA qui vont gagner à moins 10, à moins 15. On a besoin de stars, de personnalités, de charisme, de gueule, de déclarations.
Mais ça ne se décrète pas, ça, Simon.
Ça ne se décrète pas, ça
tu
vient peut-être avec les habitudes.
Ça
vient peut-être avec les habitudes, ça vient peut-être avec la répétition des victoires, mais on a besoin des personnalités, de personnages.
Mais Scheffler, on en a parlé, il ne sera jamais charismatique.
Peut-être, mais on a besoin, je trouve, mais après c'est peut-être personnel, mais on a besoin de repères. C'est-à-dire que quand tu allumes ta télé et que tu vois le leaderboard, je te dis pas d'avoir que les cadors, mais tu as besoin de repères sur les noms. Parce que quand il y en a un qui arrive comme ça, tu es très heureux de le voir et tu as même envie qu'il tape les autres. Et c'est ce qui s'était passé l'année dernière. Wyndham Clark, il y avait tous les cadors, il y avait lui, tu étais content. Sauf que moi, je trouve qu'on a besoin dans un sport de repères. Et quand tu allumes le leaderboard et qu'il y en a sur les 10, il y en a 8 que tu n'as jamais vu jouer, ou quasiment, je grossis le trait, tu dis je vais peut-être faire autre chose, quoi. En fait,
encore une fois, c'est par rapport, pardon Fabien, rapport à la gestion de la saison, vous vous rendez pas compte. Les champs des signatures étaient full, il y avait que des gros noms. Donc les tournois 10 secondaires, ils ne se présentent pas parce que veulent absolument être présents pour le printemps.
Donc c'est maintenant qu'on va juger la saison là.
Oui.
Ouais. Alors il y a peut-être aussi un truc, c'est que comme la nature a horreur du vide et que effectivement depuis que Woods n'est plus là, quoi que tu me dises, il n'y en a pas un qui porte le truc, un peu Rahm, un peu McIlroy sur courant alternatif. Donc en fait, on a compensé pour créer des circuits, des concepts qui, quelque part, prendraient le côté charismatique des choses. Et on voit qu'au lieu de prendre le lead, ça fight dans tous les sens. Mais on ne se décrète pas, Simon, je suis désolé, charismatique, c'est pas possible.
Ah non, okay.
C'est
pas dit qu'on le décide soi-même.
On a déjà beaucoup parlé de Scottie Scheffler là-dessus, et donc on va pas y revenir. Martin, tu voulais conclure le débat.
Rapidement, on en parlait un tout petit peu. Tu parlais d'une notion de quelque part de storytelling, c'est-à-dire de parfois si le sport suffit plus, ou suffit pas, il faut avoir des belles histoires. Et moi, je suis d'accord sur le côté que depuis le début de l'année, bon, Mathieu Pavon mis à part parce que c'est notre belle histoire à nous en France, mais il y a plein de joueurs qui sont intéressants, mais faut être suffisamment passionné et il faut avoir suffisamment de médias qui se passionnent pour ce genre de profil là pour en faire des caisses autour, tu vois.
Juste le niveau, il est moins bon ou pas?
Non, par contre, je pense pas que ce serait faire un joueur, ce serait faire la fameuse astérisque qu'un joueur du livre a failli mettre sur la veste verte éventuelle de Rory. C'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire sur les joueurs du PGA Tour.
Ok, Ramoucho, très court.
Pour emboîter le pas de Martin, et pour une raison pour laquelle je suis emballé, c'est faut pas oublier non plus les résultats de nos pros français. Surtout les circuits, depuis le mois de janvier, ils sont tous présents, que ce soit sur le DP World, le Challenge Tour.
On a dû faire 2-3 numéros sur les Français, on est bien d'accord là-dessus.
Tout, ça compte quand même par rapport à un début de saison.
Encore une fois, si on était anglo-saxon, l'argument serait pas valable. Donc, si on prend la photo d'ensemble général, on peut pas.
Juste satisfaire de Mathieu Pavon. Okay.
Ah non, mais je parle pas de Mathieu Pavon, je parle sur les trois circuits.
Bon, moi, j'ai bien entendu, il y a de l'espoir. Dans 2 semaines, il y a le Masters d'Augusta, et là, on va voir ce qu'on va voir, et je l'espère très sincèrement. Allez, on va distribuer les bons et les mauvais points.
Le practice RMC.
Complète !
Balance, balance !
Mais tu l'emporteras pas dans le trou !
Ça y est, il l'a acheté !
Allez !
Tu l'as acheté !
Balance ton golfeur.
Que ce soit positif ou négatif, vous allez tous balancer sur un golfeur. Nous allons, j'imagine, revenir sur le Texas Sheldon Houston Open, mais vous pouvez évidemment balancer sur n'importe quel golfeur. Je veux un nom pour débuter. Simon Dutin.
Ah là là, Scottie est passé pas loin du coup près, mais je vais dire du bien de Alejandro Tosti.
Tosti, parfait. Martin Coulon.
Étonnamment, je vais dire du bien de Stefan Jäger, mais pour plein de raisons.
Bah, il s'est imposé hier tout de même déjà. Ramoucho Artola.
Moi aussi du bien de Pérez Victor.
Victor Pérez. Fabien Donoyan.
Nelly Korda.
Ok, bon, 4 noms à évoquer, plus ou moins rapidement. Forcément, la prime au vainqueur, à celui qui a remporté Houston d'un coup sur pas mal de joueurs d'ailleurs, c'est l'Allemand Steven Jäger. Tu veux nous dire quoi sur lui?
Alors Stefan Jäger, t'imagines, ça fait 135 tournois. 135 tournois qui se prenaient les pieds dans le tapis, qui se prenaient les portes dans la tronche. Pourtant, c'est un bon joueur, hein, Stefan Jäger. C'est pas un perdreau de l'année. Moi, j'avoue, je l'avais rencontré à un US Open à Erin Hills en 2017, si je dis pas de bêtises. Il était déjà à l'US Open, il a passé le cut, il jouait déjà très proprement, le bonhomme. Et t'imagines qu'il a attendu 135 tournois et qu'il a dû attendre un putt du numéro mondial pour se dire éventuellement je gagne ou je gagne pas. Le fait que Scottie Scheffler a raté, évidemment, c'est ça qui lui a mis le trophée dans la pochette, mais pas que. Moi, je me dis que un joueur comme ça, ça fait partie justement de ces joueurs qui ont un côté storytelling, parce que tu le regardes, le bonhomme, bon, il a une petite tête sympa, il a une petite bouille un peu mignonne, c'est pas le mec le plus charismatique de la Terre, on en parlait un peu tout à l'heure dans le débat, mais en fait, Stefan Jäger, je pense que c'est un gars qui a du charisme, parce que c'est un gars qui joue très propre. Et c'est un gars qui est hyper attachant. Encore une fois, avoir discuté pas mal avec lui, c'est un mec vraiment cool. C'est le prototype du gars que t'imagines pas à très 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 haut niveau, et pourtant, si, ça joue très très bien au golf. Attention, parce que c'est un joueur qui a 34 ans, qui a quand même pas mal d'expérience, et qui a su attendre évidemment 135 tournois avant de l'empocher, mais qui a su aussi faire le dos rond pendant 9 trous sur les derniers sur la dernière partie, donc dans le Money Time du Houston Open. 9 parts, t'imagines, son dernier birdie de la journée dans le dernier tour, c'était au 9 le dimanche, et avec Scottie Scheffler et toute la smala qui commençait à lui presser le citron. Et donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose.
Il gagne parce qu'il fait le dos rond, mais les autres n'ont pas voulu du trophée. Enfin, vous voyez,
ça me fait souvent rire. Il a fait le dos rond, il a fait 9 parts, enfin il a fait ce qu'il a pu déjà.
Il a fait ce qu'il a pu.
Tant mieux s'il a pris 9 parts.
Il y a un truc, moi, qui m'intéresse avec ce bonhomme là, c'est que mine de rien, tu peux te dire, bon, Stefan Jäger, il a sorti la meilleure semaine de sa vie, enfin, sur une semaine. Mais si tu regardes un petit peu son début de saison, il n'est pas si dégueulasse que ça.
Il n'est pas loin au Farmers. Hein,
il n'est pas très loin du Farmers. Tu vois, il était dans la dernière partie avec un certain Mathieu Pavon. On était bien content qu'il finisse 3e. D'ailleurs, Stefan Jäger, il fait 3e à Mexico fin février. Donc, c'est pas une performance qui sort du chapeau. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, parce que c'est un joueur qui est à la fois pas méga puissant, mais plutôt régulier. C'est un gars qui, quand il commence à bien putter, c'est pas mal du tout. Pour la première fois de sa vie, il rentre dans le top 50 mondial, il va aller au Masters, il va faire les tournois limités plein les tournois limités du PGA Tour jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas, ce bonhomme-là, j'ai envie de le voir justement décomplexer ce que ça va donner, parce qu'on sentait que c'était un peu tendu et que maintenant,
ça y est, il a gagné. Ok, tu voulais répondre.
Ouais, simplement Fabien. Pour dire que tous les mecs qui prennent le départ du 1, c'est pas des peintres, hein, donc quand on dit c'est quand même des joueurs incroyables, et ce qui est assez paradoxal, c'est pour moi hier, il aurait pu gagner à Torrey Pines, il aurait pu gagner ailleurs, et quelque part c'est celui qui il a gagné parce que les autres ont perdu. Donc c'est là où si l'histoire est magnifique, parce que tant mieux, il gagne, et je suis d'accord avec toi, comme Knapp, comme tous ceux qui ont gagné là, les jeunes, les nouveaux, il faut les suivre parce qu'on aura peut-être notre future star.
Ok, très bien, on a bien compris, on va pas revenir sur le premier débat, même si je sens que la tentation est grande. Victor Pérez, forcément, on va parler de lui dans Balance ton golfeur avec toi, Ramucho. Il a terminé à moins 7, hein, ce tournoi de Houston, 17e, Victor Pérez. Tu veux nous dire quoi sur lui?
Je voulais dire qu'il prenait gentiment ses marques, qu'il prenait confiance, qu'il est en train enfin de trouver le rythme du PGA Tour. C'est vrai. Et sa catégorie, lui permettant d'accéder à tous les tournois, il rate un cut ou deux cuts d'affilée. Même dans ses déclarations, de son comportement, on sent qu'il n'est plus, il est beaucoup moins sous pression que d'autres années. Et donc, il est en train de gérer une saison qui est tout à fait propre pour l'instant. Il a fait deux top 20. Il a fait un podium
à
Porto Rico.
Avec Houston, ça fait trois.
Non, deux top 20 et un podium à Porto Rico. Donc là, il se bat pour avoir accès au...
trois.
Trois top 20 dans...
Oui, mais c'est un podium. C'est sur son podium. Donc, il est en train de tranquillement poser ses jambes sur le PGA Tour et ça augure une très bonne saison.
Ok, il a changé. Vous voyez dans son comportement, les autres, quelque chose où vous dites...
tellement peu souvent que...
C'est vrai que c'est compliqué de le voir. Et, par contre, ce qui est intéressant, c'est...
Hier, on l'a vu un peu quand même.
Mais il trouve du rythme, quand même. Oui, là où il a changé, après en sérénité, il fait un 4 putts épouvantable.
C'est dégueulasse.
Et il prend 3 putts à 1 mètre. Hein, donc, il pouvait vraiment finir en catastrophe. Et derrière, il a assez de ressources techniques, physiques, mentales, etc., pour nous planter quand même un birdie ou 16, un birdie ou 18 pour finir dans le top 20.
Il a
donc
fait
ça,
un
c'est quand
aussi.
Même significatif.
Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est très drôle, parce que quand on regarde le golf, vous avez l'appli du PGA Tour où vous pouvez voir shot par shot. Voilà. Et vraiment, il plante les mains. Il plante les mains et il a du mal encore. Et c'est pas nouveau à convertir. Parce que plein de fois, on le voit plutôt prêt. Et on dit, allez, c'est bon, il va refaire un birdie. Et quand, parce que ce qu'il faut savoir sur le 14, là, il fait un deuxième coup.
Fantastique.
Mais hallucinant, sous les arbres, machin. Il tape le bout du green.
Déjà, attraper le green, c'était exceptionnel.
Oui, c'est ça.
Et tu sors
il est loin du drapeau, mais il est sur le green.
Et tu sors avec 4 putts. Et derrière, force mentale, qualité de jeu. Effectivement, il commence à trouver sa place. Il refait deux birdies. Et ce qu'il faut savoir aussi, la semaine prochaine, s'il fait un bon résultat, il va être dans les 5 qui vont pouvoir jouer le signature, exactement, après le Master. Donc on a quand même deux Français, deux petits mecs là qui commencent à s'installer.
Ok, vous y croyez Victor Pérez, il y a une petite sensation. Quelqu'un voulait réagir aussi sur lui?
Non, moi, c'est vraiment cette notion de rythme, parce que Victor, c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner les tournois, d'enchaîner, de se mettre dans ce qu'il appelle lui son momentum. C'est un mot qu'il emploie souvent. Je me mets dans mon momentum, et là, tu sens que même si le résultat comptable n'est pas forcément spécialement rendez-vous, même si un top 20 sur le PGA Tour, c'est jamais acheté, évidemment. Il y a quelque chose, c'est cette rythmique, ces semaines qui s'enchaînent et ce rythme de tournoi qui est important chez lui.
Ok, bon, on va continuer de le suivre, évidemment, notre Français Victor Pérez. Simon, tu veux parler, c'est une première d'ailleurs, tu veux parler de Tosti qui a terminé deuxième ex aequo à Houston.
Oui, l'Argentin, il a fini donc parmi les runners-up à un coup du vainqueur. Je l'ai découvert, moi, personnellement. À l'occasion de ce tournoi. Et j'aime bien, alors il a goinfré un putt de 2 mètres au 17 ou au 18, qui lui a enlevé ses espoirs de victoire. Mais c'est un petit gabarit qui secoue la balle comme un sourd. Je ne sais pas à quelle distance, je crois qu'il était...
383 yards, il a
mis. C'est absolument monstrueux vu son gabarit. Je crois qu'il était 7e avant le début du tournoi au Stroke Gain of the Tee. Donc c'est un des plus gros frappeurs alors qu'il est minuscule. Du coup, il me rappelle un peu à toute proportion gardé un Yann Woosnan, tu vois, ce genre de mec, tu te demandais comment il pouvait rivaliser. Alors, il est rookie, on précise, hein, 27 ans, il a pas mal bourlingué sur le Korn Ferry. Et j'ai bien aimé parce que, toujours pour revenir à nos débats sur le charisme, les personnalités, les personnages qu'on a besoin de créer pour rendre le PGA encore plus attractif, J'ai bien aimé le body language, il a dansé, il est allé chercher le public après un putt réussi pour le dernier tour. Il a été exceptionnel par moments autour des grilles, mais il me rappelle du coup un peu un Patrick Reed à ce titre-là. Et en fouillant un peu pour justement muscler un peu mon balance ton golfeur, je suis tombé sur une anecdote il y a une dizaine d'années alors qu'il s'apprêtait à jouer le championnat sud-américain amateur. Il faisait une partie d'entraînement extraordinaire et puis je crois qu'au 18 il fout son drive qui rebondit sur un rocher et balle hors limite. Il faisait une partie extraordinaire, il a balancé le driver du haut de la falaise.
Je comprends mieux pourquoi tu l'aimes.
Donc voilà, va savoir okay. Pourquoi je m'identifie un petit peu à ce bonhomme et voilà, il m'a régalé à Houston et j'ai hâte de le revoir.
Ah mais moi j'ai adoré, alors moi je le connaissais un petit peu parce que suivant Paul Barjon sur le Corn Ferry depuis quelques années, effectivement, mais là c'est frais quoi, c'est-à-dire oui. Le mec, tu sens clairement qu'il est différent, il a envie d'apporter, et comme tu le dis, ce paradoxe, taille, cachou,
ah, c'est fou.
Je veux dire, à un moment donné, c'est ce qu'on attend aussi, on attend des mecs qui sourient, on attend, enfin si on compare, pardon, hein, avec Skins, ben, à un moment donné, t'as envie de lui dire, mec, si t'es pas content, si tu t'ennuies, ben écoute, viens, on va aller boire une bière.
Il peut devenir grand, donc.
Ah.
On pourrait l'appeler le Big Toasty.
Big Little Toasty.
Allez, celle-là, elle est pour moi. On va terminer ce Balance ton golfeur avec ton golfeur, Fabien.
Ouais, c'est une golfeuse. Ah. Elle s'appelle Nelly Korda. Et oui, c'est bien aussi que l'on parle du golf féminin. D'ailleurs, je vous invite à regarder le LPGA parce que c'est passionnant. Voilà, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Et pourquoi Nelly Korda ? Parce que Nelly Korda, qui avait démarré sa carrière en trombe, on ne va pas refaire l'histoire, papa, maman, frère, sœur, sportif de très haut niveau, eh bien, elle était aux abonnés absents. Elle s'était blessée et sincèrement, on la croyait un petit peu perdue et je pense, elle aussi, enfin un peu moins que nous, elle écrasait plus un Gervais et là, tout d'un coup, elle te plaît celle-là.
Ah, j'adore.
Janvier... elle gagne et là elle vient de gagner deux fois d'affilée avec un champ incroyable dans des conditions dantesques et hier elle met un 65 pour gagner, donc génialissime. Et je trouve que pour le golf féminin, pour le golf mondial, là pour le coup c'est charismatique, c'est sublime, frappe de balle, intelligence de jeu, elle peut porter, elle, le golf féminin sur ses épaules et peut-être le golf en général. Donc, un big, big love pour Nelly Korda.
Et je crois même que ça fait trois d'affilée, Fabien, pour
Nelly. Non, janvier.
Nelly.
Janvier.
On va aller vérifier ça.
Mais trois d'affilée.
Ah,
oui.
Trois tournois d'affilée.
En participation.
Oui, mais là, c'est deux d'affilée dans le calendrier.
Voilà, on a
tous
compris.
Soyez précis, les mecs.
On a tous compris. On a juste envie de te chicoter les mollets. Allez, on passe tout de suite à l'édito de Simon Dutin.
Le Practice RMC.
Depuis combien de temps jouez-vous au golf ?
Tom Tom, ça fait vraiment depuis des années.
Et sur un parcours comme ça, depuis quand ?
J'ai 10 minutes.
Le 19e trou.
Et Simon, tu veux nous parler aujourd'hui de cette fameuse... TGL, TGL, je ne sais pas comment tu veux le dire. En tout cas, c'est un nouveau format.
Oui, j'y sais, TGL comme The Golf League. C'est bien trouvé, non ? Non, je déconne. TGL pour Tech Infused Golf League. J'imagine qu'à part toi, tout le monde avait pigé ce que ça voulait.
Attends, je t'explique. Moi, quand je parle anglais, c'est pas pour vendre, c'est pour acheter. Alors crois-moi, tout le monde me comprend.
Ben oui, bonne question du coup. Est-ce qu'on achète ou pas ce nouveau projet ? Parce qu'à moins d'avoir été coincé dans un rough du golf de Courson depuis août 2022 et l'annonce de sa création, vous avez forcément entendu parler de cette TGL. Allez, petit rappel tout de même. En partenariat avec le PGA Tour, Tiger Woods, Rory McIlroy et Mac McCauley, l'ancien patron du golf chez NBC, ont fondé la société Tomorrow Sports. Elle a pour but, je cite le wording officiel, d'exploiter la technologie pour élaborer des approches progressistes dans les médias sportifs et le divertissement. La Tech Infused Golf League est donc l'épée qui doit mener cette nouvelle croisade qui vise à s'adapter aux prétendus nouveaux besoins, désirs ou simples souhaits des consommateurs modernes, je cite toujours, de golf à la télé ou sur le net.
Je veux dire que ce sera un spectacle époustouflant, opulent, munificent, splendide, gargantuesque, un enchantement des sens, un ravissement.
En gros, il s'agit de jouer au golf en intérieur, donc, mais avec des fairways, des roughs, des bunkers, des départs en gazon naturel, mais a priori, sans vent ni pluie, le tout en gagnant beaucoup d'argent. Parce que oui, il ne faut pas déconner, le but dans tout ça, c'est de trouver de nouveaux moyens d'irriguer les comptes en banque des pauvres petits joueurs du PGA Tour. Vous savez, cette petite PME en grande difficulté depuis plusieurs années, qui pour continuer à subsister, doit donc innover. Les joutes de cette nouvelle ligue se dérouleront donc, je vous le disais, en indoor et consistent à s'affronter sur simulateur et green amovible. Tout cela se passera dans l'enceinte du Sophie Center de Palm Gardens en Floride, une arène de plus de 80 000 m² qui peut accueillir pas loin de 2000 spectateurs. Au programme, des rencontres par équipe de 3. On va jouer 15 trous par match, les 9 premiers en foursome. Le joueur 1 tape le premier coup, le joueur 2 tape le deuxième coup, le joueur 3 tape le troisième coup. C'est bon, vous êtes toujours là ? 9 trous en foursome. Donc, puis 6 en simple, chaque joueur d'une équipe en joue donc 2.
J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi ?
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Désolé, on n'a pas le temps, donc on avance. Un point par trou remporté, l'équipe qui en a le plus après 15 trous gagne le match. L'innovation n'ayant pas de limite, afin de rendre tout cela le plus excitant possible, les joueurs n'auront que 40 secondes pour jouer, sinon ce sera un coup de pénalité. Team Spirit oblige, il sera possible de demander des temps morts. Chaque équipe en aura 4 par match, dont 2 par session. Histoire de pimenter encore la sauce, il sera possible d'appeler une interruption alors qu'un joueur de l'autre équipe s'apprête à jouer.
On vous dérange pas, j'espère.
Tout cela sous le contrôle de 2 arbitres, 1 sur le terrain, 1 dans une cabine. En cas de match nul, play-off, qui se disputera via un concours d'adresse. Le joueur le plus proche du trou offrira la victoire à son équipe. 2 points par match remporté dans le temps réglementaire ou prolongation. 1 point pour l'équipe qui s'incline en play-off. 0 pour une défaite après 15 trous. Un classement sera établi après chacune des 5 journées d'une saison régulière qui s'étendra sur 15 semaines avant des play-offs, vous savez, comme dans les autres ligues de sport co américaines. Les 4 premiers du classement y participeront afin de se qualifier pour la finale qui se disputera au meilleur des 3 matchs. Alors maintenant que vous connaissez le programme, reste une question qui vous brûle les lèvres et c'est normal. Qui va disputer cette Tech-Infused Golf League ? Eh bien, figurez-vous qu'on n'a pas fait les choses à moitié parmi les joueurs qui ont déjà donné leur accord. Tiger Woods, Rory McIlroy, mais ça vous l'aviez deviné, ainsi que Justin Thomas, Ricky Fowler, Colin Morikawa, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Tommy Fleetwood, Max Homa, Adam Scott, Shane Lowry, Cameron Young, Min Woolley, Billy Horschel, Justin Rose et j'en passe.
J'ai l'impression que le type là-bas, il me propose une partouze.
Ce sera en revanche, a priori, sans Scottie Scheffler et Victor Hovland.
Pardon, Simon, mais elle était très bonne, merci.
C'est le pire son du monde, j'adore.
On va continuer, vous inquiétez pas, ça nous intéresse.
Un peu d'organisation.
Ce sera en revanche, a priori, sans Scottie Scheffler et Victor Hovland, ni Yann Rahm, l'Espagnol, pourtant enthousiaste avant de devenir, vous le savez, un renégat. Pas de Donoyan ou Coulon non plus, pas intéressé, selon nos confrères américains toujours bien informés. Début des festivités en 2025. Le 7 janvier, lancement repoussé, tu en parlais, JC, repoussé d'un an suite à l'effondrement en novembre dernier du toit du Sophie Center. Avouez que ça l'a fouté un peu mal. Le toit s'est dégonflé, avait indiqué la société Tomorrow Sport dans un communiqué, espérant qu'il ne s'agissait pas alors d'un signe annonciateur, que le soufflet de la TGL pourrait très vite retomber.
Mais ces visages éclatants et sublimes ont-ils vraiment besoin d'artifices pour rayonner et nous faire rêver ?
Est-ce que ça vous fait rêver, justement ? Merci beaucoup, Simon Dutin, pour cet exposé brillant. Ça vous fait rêver, là, ce nouveau format, Martin ?
Les trucs de groupe, pas trop, mais ce format, je suis un peu mitigé parce que, bah, étonnamment, vous allez me dire, comme d'habitude, non, parce que le truc qui me dérange le plus, c'est le fait que ce soit en indoor. Par contre, le fait qu'on tente des trucs, ça me parle. Mais il est toujours sur son son.
Non, je crois pas.
Si, je vois Simon qui pleure de rire.
Non, mais c'est quoi, l'indoor, ça te...
Non, l'indoor, ça me parle pas des masses, parce que pour moi, le golf, c'est dehors, et puis c'est dans la nature, quoi, sur un vrai parcours qui réagit comme un vrai parcours. Après, le truc de tenter de nouveaux formats et d'essayer d'aller gratter une nouvelle audience, une audience différente qui cherche une consommation de sport différente et peut-être un peu plus rapide et plus... Comment dire ? Moins chiante que le golf à la télé globale ou le classique, bah, ça se tente. Et pour une fois.
Et tous les sports le font. Hein.
Et je vais même faire plaisir à mon bon Fabien. Je pense qu'à ce niveau-là, dans le fait de tenter quelque chose de nouveau, le livre est au-dessus de ça. Parce que ça se joue sur un vrai parcours. Et ça, c'est la différence fondamentale.
Ok, rapidement, vous aimez ou pas, Fabien?
Oui, moi j'adore. J'adore parce que on va encore parler de golf. Et je trouve que toutes les initiatives qui sont prises pour que notre sport soit sur le devant de la scène avec des innovations, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va pas refaire le match. Et puis surtout, le mec qui porte ça est le mec le plus, ça c'est pour toi Simon, le plus charismatique, même quasiment du sport mondial.
Tiger Woods.
Donc, et je pense que ce format tel que tu le décris, ben, moi ça m'excite, j'ai hâte d'y être, parce que effectivement, je pense qu'on peut vivre quelque chose et attirer une autre population et des gens qui vont venir jouer au golf parce qu'ils vont trouver ça fun, simple, hyper social. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc oui, un énorme love aussi.
Ok, Ramucho.
Oui, complètement. Dès qu'on peut donner notre image du golf, le développer vers d'autres publics, je suis acheteur à 100%.
On précise juste, j'y sais que ça a été conçu pour que chaque match ne dure que 2 heures et du coup répondre ainsi à certains détracteurs qui disent que le golf c'est trop long. Et là, ce sera des matchs, on sait que ça durera 2 heures, quoi qu'il arrive.
C'est absolument canon. Puis que ça soit Woods qui porte ça.
C'est que du love.
C'est magnifique. Ouais, mais je suis parti.
C'est très love aujourd'hui.
Je suis archi love.
Allez, à chaque épisode, on file au practice.
Le practice RMC.
Je vous conseille, si ça ne visait pas à gauche du drapeau, si c'est des bacs à sable devant. Ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Elle joue, super.
Le tips de Ramucho.
Allez, on s'installe sur le tapis tranquillement avec Ramucho Artola, avec les oiseaux, avec tout le monde. Et on va prendre un petit cours avec notre ami Ramucho. C'est Loïc qui nous appelle. Bonjour Loïc.
Ouais, bonjour à tous.
Salut Loïc.
Merci d'être avec nous Loïc. Ramucho est à toi, t'es sur le tapis avec lui, vas-y pose-lui une question.
Alors la petite question, moi je suis originaire du sud de la France et je voulais savoir si tu pouvais donner aux auditeurs un petit tip pour réussir à tenir une balle dans le vent pour attaquer un green correctement.
Ah ben très bien Loïc, ça c'est un beau programme, c'est un super coup de golf à avoir dans son sac ça. Donc déjà une petite précision Loïc, à savoir que la clé de ta régularité sera évidemment ta capacité à t'adapter aux conditions météo comme le froid, la chaleur, la pluie et en l'occurrence le vent. Donc dans ce vent, tu seras Loïc à la recherche d'un coup plutôt punché et que le sens du vent soit latéral, droite-gauche, gauche-droite, voire défavorable, c'est-à-dire contre. Donc ton objectif maintenant, tu vas chercher à ce que ta balle n'ait pas trop de hauteur lorsqu'elle va prendre son envol, afin qu'elle ne subisse pas trop l'influence de ce maudit vent. Donc ton objectif, obtenir une balle basse, plutôt basse. Donc si tu es droitier, Loïc, dans ton setup, dans ton organisation, tu vas placer la balle à droite de ton sternum, donc plutôt vers le pied arrière, le pied droit. Pour quelle raison, Loïc ? Eh bien parce que tu vas rechercher un contact plutôt descendant afin que la trajectoire de ta balle soit la plus pénétrante possible grâce à un vol plus plat. Et inévitablement, tu obtiendras également moins de spin. Donc, dans ton installation également, tu placeras ton poids du corps très légèrement vers la jambe gauche, à 60%, pas davantage. Et ton club va par conséquent, lui, se décaler vers l'avant et du coup, tu délofteras légèrement. C'est-à-dire que tu obtiendras une réduction de l'angle initial de la face du club. Exemple, mon fer 8 va se transformer ou va ressembler davantage à un fer 7. Tu vas donc choisir, Loïc, un voire deux clubs suivant l'intensité du vent afin de swinguer. Et ça, c'est très important à 60% de ton intensité. Et Dieu sait si on aurait plutôt tendance à accélérer son mouvement, notre mouvement, à vouloir en quelque sorte montrer les muscles sous prétexte que le vent est défavorable. Et là, il s'agirait d'une très grosse erreur. Donc, Loïc, s'il te plaît, pas de plein swing. On ne sur-swing pas, Loïc. Opte pour un trois quarts de swing et en rythme avec comme repère des mains qui n'iront pas plus haut que le niveau de tes épaules, et que ce soit sur ton backswing ou sur ton finish. Et donc, plus ton club restera près du sol, moins ta balle prendra de hauteur, et plus grande sera la maîtrise de ce coup. Donc, à mon avis, Loïc, maintenant, tu es quasiment fin prêt pour attaquer des greens, quel que soit le sens du vent, et surtout s'il est contre.
Ok, bon, on va essayer ça rapidement. Merci pour le conseil.
Bah écoute, il n'y a pas de problème, on peut continuer d'en parler avec toi, Fabien Donoyan.
Oui, évidemment, bravo Ramucho, parce que c'est toujours difficile d'expliquer un coup de golf. Et peut-être une précision en fait, ce qui est une balle basse, il faut réduire en fait l'angle d'attaque et l'ouverture du club, effectivement la vitesse, donc c'est ce qu'on appelle le spin loft du club, parce qu'à l'adresse il est dans une certaine position, il faut qu'il soit à l'impact, et si je dois imaginer, il faut que le manche et les mains soient devant la face de club, c'est la raison pour laquelle Ramucho a demandé à Loïc de la mettre un petit peu plus en arrière, enfin j'imagine que tu es droitier, un petit peu plus
sur le pied droit,
à droite dans ton stance, et effectivement la vitesse, mais il faut vraiment réduire le spin en fait, pour pas que cette balle, parce qu'en fait plus on met de spin, plus la balle décollera vite dans le ciel, donc il faut clairement avoir cette idée, comme l'a dit Ramucho, d'avoir un club plus fermé et une vitesse moindre.
T'es dans quel coin mon cher Loïc, il y a beaucoup de vent?
Ouais, on est à côté d'Avignon, moi je joue au golfe de Sommane, donc on arrive à avoir du mistral qui monte jusqu'à 80 km/h.
Oh, mais
c'est vrai que les attaques de l'île, c'est bien compliqué sûr. Certains jours, ouais.
Mais il faudrait qu'on joue ensemble, moi je vais souvent jouer à Servannes, dans les Alpilles.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Et c'est vrai que quand tu arrives, parce qu'il y a le mistral qui remonte, tu as 3 jours de mistral, souvent c'est 3 jours, c'est vrai que ça devient compliqué à jouer, c'est assez difficile, mais c'est aussi hyper formateur, non?
Ah oui, complètement. Après, une fois qu'on joue dans le vent, quand on a des journées calmes, on trouve ça beaucoup plus facile.
Exactement. Je suis bien d'accord avec toi, on trouve ça tout de suite plus facile. Merci Loïc d'avoir été avec nous et au plaisir de partager une partie avec toi. En tout cas, c'est un très très joli coin de France. Un cadeau exceptionnel à vous faire gagner à chaque épisode. Aujourd'hui, on vous propose 2 douzaines de balles Chrome Tour. La balle, l'une des balles notamment de Xander Schauffele, valeur de ce cadeau, 130 euros pour remporter ces balles. Vous envoyez Golf au 732-16, Golf au 732-16. Le vainqueur sera tiré au sort. Simon, Fabien, Ramucho, Martin, merci beaucoup les copains.
Merci les gars.
Merci les gars. Merci.
Chouette encore d'être avec vous. Je vous le redis, chers auditeurs, chers podcasteurs, ça cartonne ce podcast. Donc n'hésitez pas, likez, laissez-nous des commentaires parce qu'on a vraiment envie de savoir pour nous aussi nous améliorer et vous régaler tous les lundis. Rendez-vous à l'épisode 10 qui sortira lundi prochain, lundi 8 avril. Nous serons à quelques jours du Masters d'Augusta. On en parlera forcément et puis nous parlerons des nouvelles balles qui verront le jour en 2028. Normalement, ça fait beaucoup parler. La question sera simple. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Allez, bon golf à tous. C'est comme dirait Bob Totski. La plupart des golfeurs se préparent au désastre, les bons golfeurs se préparent à réussir.
Le Practice RMC.